Café.
Mesdames et messieurs, chers panélistes, bonjour. Nous sommes honorés pratiquement de votre présence en ces lieux, en cette salle de conférence du cadre de concertation de la société civile au Katanga. Votre présence ici justifie justement l'invitation que nous avions lancée par rapport à ce presse-café. Ce presse-café organisé par Vox Congo avec l'appui financier d'Internews, évidemment en collaboration avec les réseaux des médias associatifs et communautaires du Grand Katanga. Et donc, cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Congo News et elle a pour thème « Comment les femmes candidates peuvent-elles parvenir à surmonter les inégalités hommes-femmes pendant la campagne ?» électorale. Et pour échanger, nous recevons quatre panélistes. Juste à ma droite, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le professeur Ngoï Kimpulwa Baté. Il est professeur à l'université de Lubumbashi. Il est politologue. Après lui, il y a madame Clotilde Mutita. Elle représente les femmes candidates, toutes tendances confondues. Et à sa droite, il y a notre ami Jeff Mbia. Il est professionnel de médias. Il représente pratiquement tout le professionnel de médias de la ville. Et à l'extrême droite, nous avons Fidèle Guirondé, communicologue. Alors c'est avec ces quatre panélistes que nous allons essayer de changer, n'est-ce pas, autour de ce thème intéressant, comment les femmes candidates peuvent-elles parvenir à surmonter les inégalités hommes-femmes pendant la campagne électorale. Moi, je me nomme Gilbert Kyungu. La question de la place et du rôle de femmes dans la vie politique et sociale dans leur pays est au cœur des débats actuels sur le développement à travers le monde. Il a maintes fois été prouvé que la participation des hommes et des femmes à la vie politique et publique est une condition nécessaire de la croissance économique et du progrès social. Toutefois, force est de constater que dans de nombreux pays du monde, les femmes ne s'impliquent pas autant que les hommes dans la vie politique, économique et sociale de leur communauté. Elles ne disposent que d'un accès limité à l'éducation, aux ressources économiques et naturelle, ainsi qu'aux sphères du pouvoir. Les femmes candidates aux élections du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo restent une minorité. Elles ne représentent que 12% du nombre total de candidats aux prochaines élections. Parmi elles, on note Madame Marie-Josée Ifoku, qui est la seule femme parmi les candidats à l'élection présidentielle. Comment les femmes candidates peuvent-elles parvenir à surmonter les inégalités hommes-femmes pendant la campagne électorale? Et donc, ce café de presse se veut justement une opportunité de proposer des pistes de solutions pour que les femmes candidates arrivent justement à surmonter les probables inégalités hommes-femmes pendant cette campagne électorale qui commence déjà dans quelques heures. Et donc, nous allons commencer par les jeux des questions-réponses, n'est-ce pas? Si vous voulez poser votre question, vous levez la main, vous vous présentez justement, mais nous disons que il n'y a pas de coloration politique. Toutes les femmes qui sont présentes ici, sont celles qui sont candidates, elles sont candidates, il n'y a pas de tendance politique. Nous voulons échanger de manière un peu scientifique pour aider justement les femmes candidates à s'en sortir face à ces inégalités probables qui pourraient justement se présenter pendant la période de la campagne. Alors, pour commencer, monsieur Ngoï Kimpulwa Baté, je rappelle que vous êtes politologue et professeur à l'université de Lubumbashi, à la faculté de sciences sociales. Voilà. Quelle lecture, vous en tant que professeur, faites-vous de la participation de la femme dans la politique, la vie politique dans notre pays, la République démocratique?
Merci bien pour
la question, M. Gilbert. Je commence par vous remercier pour m'avoir associé à ce café qui va nous permettre d'échanger autour de cette problématique qui est tout à fait très intéressante et d'actualité. Vous m'avez posé la question de savoir quelle lecture je peux faire sur la participation de la femme à la vie politique. Nous devons savoir effectivement que, comme dans tous les autres pays du monde, le Congo aussi a ouvert la scène politique à la femme. C'est-à-dire, bien avant la constitution de 1964, la femme congolaise était exclue pratiquement de la vie politique. C'est avec cette constitution, qui n'a pas malheureusement été appliquée, que la femme a bénéficié du droit de participer à la vie politique. Alors si nous prenons cette considération, nous ne devons pas ignorer que l'activité politique n'a pas commencé seulement avec l'accession de notre pays à l'indépendance. Pourquoi ? Parce que bien avant l'indépendance, il y a nos parents, nos arrière-parents, qui ont mené des actions à caractère politique dans le cadre de la résistance devant la colonisation. Lorsque le colonisateur est arrivé, il y a des parents qui ont résisté à cette colonisation. On peut citer un nombre de grands chefs, parmi lesquels le grand chef Mutombo, Mutombo Mukulu, et d'autres grands chefs qui ont résisté à la colonisation. Et il y en a qui ont même perdu leur vie parce qu'ils n'avaient pas accepté d'être sous la domination de l'étranger. Alors on peut croire que dans ces résistances, ces réactions qui frisent une certaine résistance devant la colonisation, il n'y a que les hommes qui ont mené ces actions. Loin de là, nous avons un appareil aéronef aujourd'hui qui est baptisé au nom de Kimpavita, Béatrice. Béatrice a vécu avant la colonisation parce que sa résistance était opérée devant l'arrivée des Portugais. Cette dame avait déjà montré que la femme pouvait mener une action à caractère politique parce qu'elle s'est arrangée pour ne pas accepter la colonisation. Elle a même perdu sa vie. Et d'aucuns pensent que si nous étions sérieux, nous devrions réhabiliter cette dame à la manière des Jeanne d'Arc de France. Parce que c'est presque des situations similaires que ces deux dames ont connues. Donc, bien avant que la colonisation ne soit, la femme a manifesté déjà des signes de résistance dans le domaine politique. Il y a aussi des représentations. Il y a des personnes qui croient que les femmes politiciennes, les femmes qui s'adonnent à la politique, sont à comparer plus ou moins à des femmes légères. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La politique, c'est une activité comme toute autre activité qui peut nourrir une famille, une activité qui peut faire avancer une famille et qui peut procurer beaucoup d'avantages à la famille. Donc, les représentations de ces genres sont de nature à freiner justement l'élan de la participation des femmes. Il y en a qui se réservent parce qu'elles se disent « Non, on va me prendre pour une femme tout le monde, une femme légère », permettez un peu ces expressions-là. Mais quand nous regardons maintenant les institutions politiques dans notre pays, nous allons constater que dans ces institutions, la présence de la femme n'atteint même pas 30%. On peut prendre le gouvernement. On va constater que dans le gouvernement, les femmes ne représentent pas 30%. Et pourtant, le gouvernement émane de la volonté du pouvoir. On comprendrait si c'était les élections En ce moment-là, on dirait non, elles n'ont pas été élues. Or, le gouvernement, c'est un choix qui est opéré par le pouvoir, donc les autorités qui ont le pouvoir en main. Les mêmes autorités qui sont appelées à appliquer les droits qu'on accorde à la femme, lorsqu'il s'agit maintenant de composer le gouvernement, ces autorités-là semblent oublier la femme.
Merci, professeur. Alors, on va vous retirer momentanément la parole pour la passer à Madame Clotilde de Moutita. Madame, vous êtes candidate. Est-ce que vous avez la même lecture que le professeur Ngoï Kimpouloi, qui dit pratiquement que, bon voilà, même au niveau des institutions, dans les gouvernements, les femmes ne représentent même pas, n'arrivent même pas à 30%. Est-ce que vous avez la même lecture? Et pourtant, elles sont à côté des hommes dans le parti politique. Mais lorsqu'il s'agit de nommer les femmes à des postes de responsabilité, n'est-ce pas? Bon, on a l'impression qu'elles sont mises pratiquement de côté. Est-ce que vous avez la même lecture?
Merci beaucoup. Merci les organisateurs. Je dis sincèrement merci aux professeurs, aussi aux autres panélistes. À tout le monde, je voudrais sincèrement d'abord saluer tout le monde et reconnaître que le fait que nous sommes ici pour représenter toutes les couleurs et toutes les tendances politiques des femmes, c'est pour moi un grand honneur. Donc je vous dis sincèrement merci. Je suis tout à fait partante avec tous les avis du professeur, parce que c'est une situation très concrète et qu'on ne peut pas vraiment ignorer sur la réalité entière de notre pays. Et est-il aussi, donc je suis vraiment en train de soutenir tout ce que le professeur a essayé un peu d'analyser, et je voudrais aussi sceller certains faits qui sont très concrets sur terrain, et d'autant plus que nous sommes déjà dans une situation dans les 24 heures qui doit pouvoir ressortir tous ces effets. Et à ce niveau, je prends l'aspect plus ou moins législatif, donc électoral, parce qu'ici le professeur a dit qu'il fallait bien voir les choses si c'était en rapport avec des nominations. Quand c'est le pouvoir, c'est un choix. Et ici, déjà demain, ce sera une réalité telle que les femmes doivent se présenter et elles doivent se faire élire. Et d'emblée, ça nous fait des situations déjà mal parties. Mal parties parce que les femmes ne se sont pas représentées en nombre. Et je prends par exemple la ville de Lubumbashi. Moi-même, je suis au niveau provincial. Il se trouve que nous sommes à plus ou moins 140. Et déjà là, nous sommes partis un nombre défavorable. Et il se trouve malheureusement que la femme elle-même a quand même réalisé cet état des choses, elle a compris, et c'est comme ça qu'elle a voulu ne plus que se présenter. Et les quelques femmes qui se sont présentées, en tout cas je voudrais les encourager, les féliciter, parce qu'elles sont quand même là. Mais les dessous des cartes se présentent de sorte que elles ne voudraient pas vraiment être en arrière. Mais il y a plus des conditions qui font en sorte qu'elles ne puissent pas être emballées directement. Et ces conditions sont des conditions telles que des situations telles que le professeur a souligné. Il y a des pesanteurs socioculturelles. Il y a ces femmes qui sont encore vraiment coincées par ces réalités-là, parce qu'on se trouve devant une situation où la société peut-être ne peut pas accepter. La femme, quand bien même elle est capable, elle a toute la volonté avec elle, elle se retrouve un peu rétractée. Elle se dit, bon, peut-être que la société ne va pas m'accepter, et comme ça, je ne sais pas me porter candidate. Alors, il y a eu des formations, pourquoi je me suis fait candidate. Et je crois que cela a stimulé beaucoup de femmes, et beaucoup d'entre nous a pu vraiment trouver gain de cause. Au-delà de tout cela, il y a aussi des réalités telles que dans nos partis politiques, l'homme qui soit devant la femme se trouve être plus ou moins, passez-moi les termes, parce que je suis aussi devant les hommes, un peu égoïste, je voudrais vraiment le dire dans ce sens, parce que l'homme reconnaît que la femme est un peu naïve. Quand elle s'y engage, elle se sent déjà naïve. Et devant l'homme qui est déjà averti, l'homme y va avec cette réalité de la femme qui se présente déjà très naïve. Et ceci va peut-être se retrouver sur terrain. Déjà pour demain, nous allons commencer. Il y a déjà des situations telles que dans les partis politiques, on alloue plus de fonds à des hommes et c'est à peine qu'on peut allouer à la femme. Ça, ce sont des réalités qu'on trouvera vraiment sur terrain. Et déjà, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent, qui disent, bon, on attendait des fonds par-ci, par-là, nous nous sommes engagés à des situations telles que peut-être à la veille des élections ou pendant ou après ou avant la période de campagne, nous aurons ne fût-ce qu'un fonds qui peut nous servir dans la période de campagne. Malheureusement, en tout cas, si ça existait, je ne suis pas vraiment au courant. Alors la femme part avec cette réalité qui fait d'elle déjà pas très favorable. Et c'est possible qu'elle ne soit pas élue. Parce que la société, la nôtre, elle semble demander un peu plus que ça. Et malheureusement, quand nous devons interroger notre histoire, la femme a été longtemps vraiment... la situation a fait que la réalité de la femme a été biaisée. La femme n'a pas été aux études pendant longtemps. Ce qui fait que même le vrai discours qu'elle pouvait réellement convaincre son électorat, peut-être qu'elle peut manquer ce discours-là. Parce que longtemps, elle n'a pas été vraiment associée à l'éducation. Et c'est une réalité qui peut être sur terrain. Et une autre réalité, c'est que devant l'homme, l'homme est très rassuré que la femme est fragile. La femme est vulnérable par rapport à toutes ces réalités. Elle n'a pas des moyens, peut-être qu'elle n'est pas très instruite. Et pour ce faire, je pense que je peux y aller comme ça et ça peut faire qu'elle peut être déclassée. Et ce sont ces inégalités-là qui ne peuvent pas être contestées sur terrain. Ce sera une très bonne chose.
Merci, Madame Clotilde. Monsieur Fidel Burundais, nous venons de suivre le propos de Madame Clotilde. Et elle a dit quelque chose qui a attiré pratiquement mon attention. C'est par rapport au fonds alloué, n'est-ce pas, le fonds de parti politique qu'on disponibilise, n'est-ce pas, auprès de candidats pour faire la campagne. Et elle a dit, on a plus donné aux hommes qu'aux femmes, déjà au niveau des partis politiques. Alors la question, est-ce que cette inégalité, déjà au niveau de fond, peut-elle être due à une... c'est le résultat d'une mauvaise communication intelligemment conçue au sein des partis politiques pour que les femmes qui s'engagent dans la politique soient toujours de marchepied pour des hommes?
Bien, merci beaucoup pour cette question et merci de m'avoir associé à cette matinée de réflexion. Merci également à ce qu'ils ont honoré par leur présence. Alors, est-ce que attribuer plus de moyens aux hommes qu'aux femmes dans les partis politiques est une communication conçue à la base pour les défavoriser? Je pense que non. On ne devrait pas associer ça au concept communication dans le parti politique, mais plutôt on devrait concevoir ça comme une politique aussi à part, conçue plutôt pour donner plus de chances aux hommes qu'aux femmes. Et la raison est ordinaire et simple, c'est que ceux qui attribuent ces moyens sont aussi des hommes. Ce ne sont pas les femmes qui attribuent ces moyens-là. Lorsque vous observez qu'ils font ces plans de budget pour une campagne électorale comme celle qu'on va commencer demain, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas des femmes, ce sont les hommes. Et lorsque vous suivez l'histoire des différents partis que nous avons au pays, ils sont majoritairement masculins et donc leur vision est aussi masculine, avec des faveurs accordées plus à l'homme qu'à la femme. Et au bout du compte, lorsqu'on doit s'imaginer qui va gérer demain au nom du parti à tel ou tel autre poste visé par une élection quelconque, eh bien, on pense en premier mettre en avant l'homme. Et quand ce n'est pas celui qui a conçu le parti, c'est celui à qui on a confié sa gestion, je vais dire son président, qui peut ne pas en être le promoteur ou l'initiateur. Et dans la gestion des fonds à la base pour préparer l'élection qui vient à travers la campagne qui commence, on commence aussi à voir comment donner plus de chance à celui qu'on estime être meilleur à la gouvernance ou dans la gouvernance. Et celui-là qu'on voit meilleur n'est pas toujours la femme, malheureusement, n'est pas toujours la femme. Et la raison est simple, c'est que traditionnellement nous sommes convaincus que la femme est faite pour le second rôle. Elle est faite, peut-être même pas pour le second rôle, mais pour le dernier rôle, pour dire, elle est utile dans l'inutilité de l'homme. quand l'homme a fait et il ne peut plus rien faire d'important parce qu'il pense avoir tout fait, alors la femme peut intervenir. Malheureusement, cela a demeuré traditionnellement, puisque nous venons des écoles où l'éducation inclusive n'a pas été assez genrée, au point que, même sans le dire, on a été formé comme des sexistes, sans que cela ne soit évoqué dans notre formation traditionnelle en famille. À l'école, on a été initié à faire la différence entre les sexes. Mais en termes de représentativité, c'est toujours marginal. Et cette marginalisation est malheureusement consacrée implicitement par ceux qui gouvernent, puisque c'est à eux que revient le rôle de faire appliquer les textes qu'eux, encore une fois, ont initiés et adoptés et donc promulgués. On les a délégués en leur donnant le pouvoir à travers l'élection, et donc ce qu'eux estiment n'avoir pas été bon à l'époque où eux faisaient partie de la population ordinaire que nous constituons aujourd'hui, c'est cela qu'ils combattent lorsqu'ils accèdent au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, ils se comportent de la même façon que ceux qu'ils dénonçaient. Et au bout du compte, on s'est dit, par qui allons-nous passer? Puisque ce qu'on va dire demain risquerait de répercuter la même politique, au fait. La politique qu'ils dénoncent aujourd'hui, ils vont demain la prolonger. Puisque ceux qui ont pris le pouvoir avant eux ont fait la même chose. Sommes-nous aujourd'hui capables de renverser la vapeur et dire, la femme aujourd'hui va être élue et elle sera élue par nous qui parlons d'elle aujourd'hui? Mais c'est parce que moi qui fais un beau discours sur la femme, qui suis encore le premier à la zapper lorsqu'il faut voter. Puisque je ne pense plus à ses compétences, je pense plutôt à son aspect des femmes. Elle est femme, elle est simplement la beauté, elle est la mère, elle est l'épouse, elle est tout. Mais elle n'est pas la gouvernante, elle n'est pas la dirigeante. Je pense que moi je ne voudrais pas qu'on réfléchisse en termes de donner une chance à la femme. Je ne pense pas que c'est une chance, je pense que c'est un droit. Un droit n'est pas une chance. Lorsqu'on parle des chances, on voit la faveur. Comme qui dirait, un prisonnier qui bénéficie de la grâce présidentielle. Il ne méritait pas cela, il a bénéficié d'une générosité de l'autorité du chef de l'État. Mais lorsqu'on se dit qu'on est en compétition et que la femme a couru plus vite que l'homme, eh bien elle est la première, ce n'est pas une faveur. Elle prend la première place pour avoir été la première à franchir la ligne d'arrivée. Et donc, je voudrais qu'on fasse ensemble cette lutte, mais pas que nous puissions la faire à la place de la femme, en fait. Je crois que la femme aussi a un rôle à jouer très important, c'est de croire en elle. Nous ne devons pas croire en la femme tant qu'elle ne croit en elle-même. C'est vrai que nous devrions renforcer la lutte contre la peur en la femme, puisque la femme, sa faiblesse n'est pas liée à sa nature seulement, c'est plutôt lié à cette conviction qu'on a mise en elle qu'elle est faible.
Merci Fidèle Bouirondé, communicologue. Merci pour tes propos franchement qui touchent les cœurs de la femme. J'ai vu la réaction des unes et des autres. Merci beaucoup. Mais il y a quelque chose qui m'a fait un clic dans la tête quand tu as dit « Bon voilà, la femme est utile dans l'inutilité de l'homme. » Waouh. Alors, nous allons chuter avec... Jeff Mbia, tu es professionnel de médias. Alors, au niveau de médias, lorsque tu fais la lecture de traitement d'informations, est-ce que on sent cette inégalité homme-femme même dans le traitement des informations? Et surtout que la campagne, c'est dans quelques heures. Si, lorsqu'on traite les informations, est-ce que on a ces soucis-là de promouvoir aussi la femme, de faire parler la femme, ou au niveau des rédactions, on met toujours la femme à l'arrière-plan?
Bon, moi je ne vais pas tomber dans des procès d'intention. Je l'ai dit que c'est question de la ligne éditoriale, de l'orientation. Après tout, c'est le journaliste qui propose le sujet. Et la rédaction essaie de désigner comment orienter ces débats. Mais ce qui est vrai, que les professeurs des médias ont été bénéficiaires de plusieurs formations dans le cadre de l'accompagnement. Parmi nous, il y a ceux-là qui avaient pris part à la formation organisée par NID et la CENI, comment favoriser la promotion de la participation politique de la femme. Je pense que les confrères ont fait leur travail, mais ils se posent un problème de coaching, parce que l'élément doit être potable quand il faut diffuser, et qu'il arrive des fois que certaines interventions des candidats ou des femmes nécessitent beaucoup de toilettage. C'est comme ça, dans les conseils, il y a nécessité réellement qu'il y ait coaching et accompagnement pour que la femme puisse en même temps jouir, mais aussi capitaliser toutes les opportunités liée à la dividende démocratie.
C'est bien dit, on va passer la parole à l'Assemblée. Voilà, celui qui a une question, il lève sa main, il se présente et puis il pose la question. Soyez vraiment très précis. Voilà, on va commencer avec la dame qui est juste sur la deuxième ligne. Vous vous présentez, madame, et puis vous posez votre question. Choisissez hein, à qui la question est adressée.
Merci beaucoup. Je suis madame Dorcas Zadi. Je suis du mouvement Rien sans les femmes. Je m'adresse au professeur. Parce que jusque-là, la question n'est pas encore répondue. Dans les thèmes, il est dit ceci. Comment les femmes candidates peuvent-elles parvenir à surmonter les inégalités hommes-femmes pendant la période électorale? Notre problème, c'est les comment là. Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a quoi? Et puis, une autre petite question. Notre État congolais, parmi ces différentes conventions, est-ce que l'État congolais a eu au moins à signer l'une des conventions qui parle au moins des budgets sensibles en genre? Parce que nous avons plus accusé les pesanteurs culturelles et ainsi de suite. Mais quant à notre État, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui est fait? Merci.
Bon, ma question d'abord s'adresse à Fidèle. Je voudrais qu'il nous parle un peu des stratégies de communication pour aider les femmes candidates une fois sur terrain pour mener leur campagne. Quel discours elles doivent tenir? Parce que nous savons que l'électorat est en grande partie constitué de femmes. Parce qu'il faut aussi un discours. Il ne faudrait pas qu'elles arrivent sur le terrain et que ces femmes candidates manquent de discours à donner à leur électorat. Et c'est pour cela que nous avons une faible représentation de femmes dans les institutions publiques ou dans la gestion de la chose publique. Et à Madame Clotilde, peut-être quel conseil, parce que demain déjà c'est la campagne, quel conseil aux femmes candidates pour qu'elles arrivent à s'accepter d'abord elles-mêmes sur terrain, parce que nous savons que une fois qu'elles se retrouvent entre elles, il y a toujours des combats de compétences, des combats de s'accepter.
Ogi Kasongo, journaliste. En parlant des inégalités entre l'homme et la femme, est-ce qu'il n'y a que des avantages du côté de l'homme et non du côté de la femme? Ça, c'est la première question. À Madame Clotilde Montitre. Je voudrais parler au professeur. J'adresse ma question au professeur. Ça fait plusieurs décennies qu'on lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme, l'égalité des chances, si on peut dire. Si ce combat continue encore jusqu'à aujourd'hui, certes, il y a aussi la responsabilité de la femme. Qu'est-ce que la femme elle-même fait? Au lieu de chaque fois se victimiser, de se présenter en victime, qu'est-ce qu'elle fait pour que, relever le défi? Merci.
Béni Rachidi, de la radio Phoenix Université. Ma question s'adresse à Madame Clotilde et à Fidèle Bouirondé. Ma première question est de savoir, ne voyez-vous pas que toutes ces faveurs que le gouvernement vous accorde, centre de protection pour la femme et l'enfant, 30% et autres, ne voyez-vous pas que ces histoires, à un certain moment, elles ont des répercussions négatives sur la manière dont les hommes conçoivent peut-être vos prestations sur le plan social? Ça, c'est la première question. Je regrette peut-être il manque un représentant des confessions religieuses, parce que c'est là où il y a un grand problème. La femme est presque mise de côté dans la gestion de l'Église. Et c'est l'origine même de ces problèmes. Et en allant dans un aspect culturel, est-ce mal carrément d'annuler la dot dans des familles, parce que Avec la dot, on constate que l'homme a une capacité de supériorité sur la femme, et partout où la femme est vue, elle est considérée toujours femme, et l'homme a l'idée que j'ai payé la dot. Il y a certaines personnes même qui voient cet aspect des choses d'une manière négative. Je m'excuse les termes, j'ai acheté. Est-ce que carrément, êtes-vous prête aujourd'hui à refuser que les hommes donnent la dot et que vous alliez en mariage sans qu'il y ait des dots? Car le problème commence par là. Donc cette question s'adresse et à Fidel et à Madame.
Voilà, merci beaucoup. Je voudrais nous rappeler que nous sommes en face de la campagne électorale qui commence dans quelques heures. Et donc nous cadrons notre entretien, nos échanges sur justement la campagne. Et l'aspect qui est ressorti, c'est l'inégalité homme-femme pendant la période de la campagne électorale. Comment surmonter cette inégalité? Alors, recadrons bien notre thématique pour ne pas aller en dehors de ça. Et voilà, nous allons commencer avec le professeur Ngoï Kimpulu Abate. Il est professeur à l'UNILU. Prof, si vous pouvez répondre aux questions qui vous ont été posées.
Je commence par la première question qui nous rappelle les sujets qui est au tableau. Chercher à répondre à la question comment les femmes peuvent parvenir à surmonter les inégalités, ça m'amène à présenter un peu la caricature de la femme. Pour dire que la femme a les mêmes compétences que l'homme. On a les mêmes compétences. Et si je jette un coup d'œil sur une lecture que j'ai faite la nuit au niveau des résultats des examens d'État de l'année 2013. Je vais partir de là avant pour répondre à cette question-là. 2013, au niveau de la ville de Kinshasa. Kinshasa, au niveau de Bandundu, au niveau de l'Équateur, au niveau du Kasaï occidental, au niveau du Sud Kivu. Quand on regarde les tableaux des résultats, ce sont les femmes, les élèves filles qui ont battu les records. Kinshasa, 51% de réussite pour les filles et 41% pour les garçons. Et pourtant, quand on regarde les effectifs de participation, les garçons sont plus nombreux que les filles. Donc ça montre bien que les filles, tout comme les femmes, ont les mêmes aptitudes que les hommes. D'ailleurs, j'aime bien évoquer à ce niveau cette grande dame-là qui a dit que être femme, biologiquement, c'est un fait, mais spirituellement, c'est un choix. C'est-à-dire que la femme peut ne pas se considérer comme femme pour réaliser les mêmes prouesses que l'homme, parce qu'elle a les mêmes capacités. Et en plus de ses capacités, il y a des règles, il y a des droits qui privilégient aujourd'hui l'égalité de la femme, surtout sur le plan politique. Donc le grand problème réside dans la détermination de la femme elle-même. Elle doit savoir ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut faire et comment elle peut le faire. Et pour y aller, la femme doit enlever le complexe. Il n'y a pas à être complexé. Il n'y a pas à être complexé. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'évolution, nous sommes étonnés de trouver même des femmes mécaniciennes d'un véhicule qui se paraît un véhicule. C'est pour dire que les femmes ont les mêmes aptitudes que les hommes. Donc, c'est question pour la femme d'avoir seulement le sens de la détermination. Quand on sait ce qu'on veut, on doit déterminer avec efficacité le moyen et on peut, n'est-ce pas, arriver à le faire. Mais, comme je l'ai dit au début, cette femme-là, étant donné qu'elle se heurte devant certaines considérations, certaines représentations sociales, Donc il n'y a que sa détermination qui peut la sortir de là. Si on dit, voilà, les femmes sont faibles, les femmes sont ceci, c'est à travers le travail, c'est à travers, par exemple, la campagne, le discours, le langage que la femme va utiliser, qu'elle peut arriver à s'attirer la sympathie de certains électeurs. Évidemment, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans le choix des candidats, mais parmi lesquels il y a aussi la conviction, la capacité de convaincre. Si la femme a la capacité de convaincre, elle présente très bien le d'ailleurs battre l'homme. C'était rare de voir une femme présidente de la République. En République centrafricaine, on en a connu. Au Libéria, on en a connu. Et chez nous, aujourd'hui, nous avons des femmes candidates. Et si j'ai pris mon journal officiel ici, c'est parce que j'étais intéressé par la direction des partis politiques. Politiques qui sont dirigées par les femmes. Alors si une femme peut être à la tête d'un parti politique, comment elle ne peut pas gérer une institution? Nous avons beaucoup de femmes là. Je vois sur la première page, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est déjà beaucoup. Et oui, partout là, nous avons des femmes qui sont responsables de partis politiques. Donc si elle a l'aptitude de gérer un parti politique, je vois très mal comment elle ne peut pas diriger une commune. Donc je crois que pour répondre à la question comment, je demanderai seulement aux femmes candidates d'avoir de la détermination, d'avoir la confiance en elles-mêmes. Il y a la question en rapport avec l'inégalité. On s'est demandé s'il y a un problème d'inégalité ou c'est le refus de la femme elle-même. Je crois que ça entre dans la même logique que je venais tout à l'heure de présenter. Si nous disons le refus de la femme, donc ça présage justement le manque de confiance de la femme elle-même. Parce que si elle a confiance en elle-même, si elle a la détermination, si elle sait ce qu'elle veut réaliser, et elle se concentre pour le faire, elle va le réaliser. Elle va le réaliser. Donc, en dépit de tout ce qui peut se raconter à gauche, à droite, mais si elle parvenait à manifester les signes de compétence, je crois qu'elle peut arriver, n'est-ce pas, à glaner le voix et à accéder au pouvoir. Il y a la dernière question qui m'a été adressée, celle qui fait allusion à l'idée d'une lutte, d'un combat à caractère permanent. Oui, la femme est appelée à combattre permanemment. C'est comme si on est dans une piscine. Quand on se jette dans une piscine, on cesse de nager. Qu'est-ce qu'on va connaître comme ça? On va couler. Donc elle s'est jetée dans l'eau, elle doit continuer à nager. Et cette nage-là, c'est ça la lutte. Donc elle doit continuer à se battre permanemment, jusqu'au moment où elle dira, ouf, j'ai atteint mon objectif, ou bien je l'ai échoué, et elle accepte sportivement à ce moment-là l'échec, et elle se repose.
Merci beaucoup, professeur. Je pense que Madame Clotilde, en tant que représentante de toutes les candidates, ne va pas accepter sportivement que voilà, non, nous avons échoué. Non, la campagne, c'est dans quelques heures, madame. Vous avez la parole.
Malheureusement, je crois que les femmes sont très décidées. Elles ne vont pas vraiment utiliser ce verbe-là, échouer. Donc, elles ont décidé de se représenter pour vraiment rappeler toutes les voies et réussir. Vraiment, ça, c'est. Il faut vraiment croire parce que je pense et je suis très rassurée que les femmes candidates, elles ont fait vraiment confiance en elles-mêmes et elles ont cru. Et c'est comme ça qu'elles se sont portées candidates. Alors, je vais répondre à la question de Shérif Kalassa. Ça a toujours été le refrain, hein, la femme qui combat pour l'autre femme. On a eu à discuter autour de tout cela, les années,
alors,
les intérêts.
À la question de Odile Kassongo, les avantages du côté de l'homme et non chez la femme en parlant des inégalités. Moi, je crois que réellement, les avantages de l'homme, ce sont ces avantages que j'ai essayé de tirer dans les discours de Fidel. Hein, Fidel a essayé de démontrer clairement que beaucoup de ceux-là qui octroient, qui allouent ces fonds-là, ce sont des hommes. Et comme ça, s'ils doivent choisir et s'ils doivent porter un choix à qui donner ce fonds-là, ils allouent ces fonds-là d'abord aux hommes. Et ça se trouve que les hommes sont plus avantageux. Mais je suis aussi très heureuse de pouvoir aussi découvrir qu'il y a beaucoup plus aussi des femmes, et des professeurs, croyez-moi, qui ne sont pas très nombreuses, hein. Les femmes responsables des partis politiques.
Mais elles sont quand même
là. Elles sont quand même là. Et Mme Rose, l'honorable Rose, et les responsables de son parti politique. Mais avec ces femmes-là, moi je suis. Mais peut-être à 10% aussi.
20% c'est déjà plus.
Voilà, un peu dans ce sens-là. Je suis très heureuse de les reconnaître qu'elles sont là, elles existent. Et je crois et je suis très rassurée que les femmes peuvent être aussi plus nombreuses. Mais c'est possible aussi que c'est le contraire. Parce que c'est possible seulement que les hommes puissent être avec ces femmes-là. Alors nous sommes en train de nous battre par rapport à toutes ces réalités. Et ceci entre dans le compte des avantages de l'homme. Donc par rapport au fond, en tout cas, nous pensons que les hommes sont plus avantagés par rapport à ça. Et les désavantages par rapport à la femme sont très nombreux. Et ici, déjà, pour choisir, le fait même d'aligner la femme, il y a toutes les causes qui en tendance. Des fois, même quand ils ne disent pas à haute voix, ils murmurent, ils disent, bon, voilà, il faut poser beaucoup de questions, découvrir un peu la femme, est-ce qu'elle met encore au monde? Ça peut être un frein. Parce que vous savez, si elle doit s'accoucher, ça peut nous prendre, bon, c'est pas bon pour nous. Et l'homme avec la femme, on choisit l'homme parce que la femme est encore en cours de maternité, que les choses évoluent bien. Je veux tout aussi essayer de répondre à la question de Rachid. Bon, j'ai compris que le modérateur a réagi brutalement, mais moi je pense et je suis très rassurée que c'est une des raisons majeures. Oui, qui vraiment est un sous-battement qui pèse même et qui fait en sorte que la femme ne soit pas acceptée.
Et par rapport à la DOC, l'administration de la DOC, n'a jamais porté les caractères marchands. Mais du moins, quand pour l'homme, vous allez vers la famille et la femme, et que la femme travaille pour la famille, il avait cherché une autre position qui bénéficie à sa famille, et que vous allez retirer dans les autres personnes. C'est un manque à gagner pour la famille. Et c'est comme ça que la DOC avait vraiment, vous allez même dire, la loi, le code de la famille de 87, le chef de l'État, comme vous, n'a jamais signé même les montants sur la DOC. Et même la responsabilité du code de la famille, on ne peut même pas dire. Ce sont des actes qui étaient aujourd'hui qu'il faut, par rapport à la manière dont les familles étaient délibérées, évaluer la DOC, il faut qu'il y ait de la responsabilité. Mais du moins, ça n'a jamais porté des caractères marchands pour qu'aujourd'hui, vous dites que la fonds vous avez acheté. Non. Même dans l'ordre des limites, même de la participation politique.
Voilà. Merci Jeff. On va accorder la parole à Fidel Bouirondé. Je rappelle une des questions qui vous a été adressée, c'est celle de savoir, mais finalement, quelle stratégie de communication.
C'est encore un montage. Un long parcours. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, effectivement, les déséquilibres qui est là remontent, ou plutôt relèvent effectivement de nous, population. Mais, et cet déséquilibre est aussi renforcé par ces différents avantages, puisqu'on les appelle avantages. On ne l'appelle pas droit. Si on pouvait regarder comme droit, qu'on a longtemps ravi à la femme, et qu'on lui restitue, si on estime qu'aujourd'hui toutes les filles à l'école, plus comptables que tous les hommes, n'est pas une faveur pour les filles, mais un droit qu'on restitue aux filles, alors là, on le prend les mots, avantage va disparaître, et en conséquence, ça ne passe pas. Ça va rapprocher. Imagine si on a chine des une chaise maintenant comme droit, et que quelqu'un vienne et t'exige de l'éveil. Tu restes debout pendant le temps que tu voudras faire partie de la chaise. Il la donne à quelqu'un d'autre, puisqu'il est que lui de la mérite. Est-ce que si c'est la même chose là, il est rentré, il faudra pour que tu aies une heure de plus pour récupérer, parce que tu vois, tu as à être debout, même si la manifestation est finie. Comme vous dire, ce qui est perdu est perdu. C'est tout à fait pas. L'occasion est là pour nous. Nous avons l'opportunité de lever.
de ne pas être en femme, si vous ne croyez pas à la femme, non pas parce que, évidemment, elle est femme, parce qu'il y en a qui croient à la femme parce qu'on dit bon, elle est faible pour la soutien de la famille. Je ne suis pas de cette logique-là. Je pense qu'on doit croire à la femme, puisqu'on pense non seulement qu'elle mérite qu'on croit en elle, mais qu'elle a des atouts. Si elle ne les a pas découvert parce qu'on ne l'a pas initié à les découvrir, qu'on l'avait maintenant à les découvrir, à les voir, puisque nous croyons déjà en elle. Et qu'on se passe, non pas pour elle, non, je ne suis pas d'accord, mais avec elle. Et je pense que la femme qui a l'air aujourd'hui ne se lance pas pour remplacer l'homme. Et s'il y va comme ça, eh bien, elle a perdu. La femme capitale va être un terrain où il y a l'homme, avec la logique de faire avec l'homme. On gagne avec l'homme, ou on gagne contre l'homme, mais si on y va avec uniquement d'aller déraciner l'homme, parce que l'homme a assez fait, eh bien, il y a beaucoup de chances que l'homme regagne, et gagne, et gagne, et gagne pour longtemps encore. Donc, c'est pas compliqué.
Alors, merci. Merci beaucoup, Fidèle. Je ne sais pas si vous avez. Voilà, merci beaucoup Fidèle. On va nous accorder juste 10 minutes, on va chuter brièvement. Professeur, Maman Clotilde, Jeff et Fidèle, alors, quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler à l'endroit de femmes candidates pour qu'elle arrive justement à surmonter ces probables inégalités hommes-femmes pendant la période sensible, très sensible même de la campagne électorale qui commence dans quelques heures.
Contexte. Si vous voulez descendre dans un milieu, il ne faut pas y aller avant de l'avoir obtenu les besoins et les attentes de ces milieux-là. Comme ça, vous allez rencontrer ces attentes-là de ces personnes auxquelles on va devoir s'adresser. Adapter au contexte, c'est adapter aussi le niveau du discours. On doit savoir sélectionner les termes à utiliser dans un discours. C'est dit, l'auditoire là-bas, il est à tel niveau, il faut que j'adapte aussi mon discours à ce niveau-là. Quand je vais du côté de Maman Abatoto dans la Kenya là-bas, il faut que j'ai un discours qui peut bien arranger cette population-là. Mais adapter le discours n'est pas synonyme à présenter, à favoriser la démagogie, non. On doit savoir ce qu'on doit devenir plus tard. Quand on doit devenir député, on sait qu'un député n'est pas là pour construire la route. C'est une charge du gouvernement. On sait qu'un député n'est pas là pour construire un hôpital. Parce que c'est une charge du gouvernement. Alors il ne faudrait pas vous acculer vous-même avec des promesses fallacieuses que vous serez incapable de réaliser plus tard. Parce que si vous allez solliciter les voix aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas un bilan. Alors, vous devez, comme je l'ai dit, adapter votre discours pour ne pas vous lier plus tard. Parce que quand vous mettez le pied dans la politique, sachez que même l'autre mandat qui viendra là, vous serez encore tenté d'y aller.
Merci beaucoup, professeur. On va donner la parole à Fidèle Bouironde. Voilà. Quel discours, finalement, les femmes candidates peuvent avoir pour arriver à briser cette inégalité homme-femme pendant la période de la campagne électorale?
Des élections et qu'on laisse les femmes seules y aller. Cela va-t-il être beaucoup plus bénéfique au pays? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire ensemble et les discours qu'on doit finalement construire sera un discours qui s'adapte à chaque femme, puisque chaque femme a un objectif. De la même façon que l'homme était adversaire politique pour la femme, de la même façon chaque femme est une adversaire pour l'autre. Et donc on n'y veut pas parce que la femme va gagner. La femme qui va parce qu'elle, comme individu singulier, veut gagner. Et donc construit son discours en sa faveur et par rapport à, d'une part, son territoire, sa circonscription, aussi par rapport à ce qu'elle est réellement, puisque n'oubliez pas, La politique de l'homogique, la chose a déjà découvert. On la connaît déjà. Dites ce que vous êtes réellement au fond de vous, que vous êtes capable de combattre pour élever le niveau réellement. Ce n'est pas pourquoi on vous les rappellera, on vous chantera honorable, honorable, on a dit à tel, on vous connaît. Donc je pense que tout est construit maintenant, et oui, c'est pour demain.
Merci beaucoup Fidel. On va accorder la parole à Jeff Mbia. Voilà, quel conseil peux-tu donner aux professionnels de médias pendant la période de la campagne électorale afin de permettre justement aux femmes de surmonter ces inégalités hommes-femmes pendant la campagne électorale au niveau de traitement d'information.
Et si nous voulons faire une société dite et utilisée, il est de notre devoir, dans ses comportements comme des hommes gardés, comme il possible, de voir comment on fait pour une fois le résultat fait. Mais toutefois, le travail des journalistes sera fait et lorsque la femme a aussi planifié pour la candidate, avait planifié et sa campagne. Et le financement, la ville disait parce qu'il faut des élections, demande de l'argent. Si la femme a été vraiment accompagnée par des professionnels de communication, parce que les professeurs sont venus ici, il faut que notre défi soit adapté aux réalités socio-économiques, sociopolitiques, celles de la population en tant que nous. Nous devons aussi que la candidate doit intégrer, comme je l'ai dit, les enjeux locaux. Doit connaître les réalités socio-culturelles et économiques, ce qu'on appelle les aspects socio-anthropologiques et autres. Mais même la candidate doit aussi se rassurer de la sécurité, de sa propre sécurité.
Merci beaucoup Jeff Mbia. Je rappelle que vous êtes professionnel de médias. Et on va chuter avec Madame Clotilde Moutita. Vous êtes représentante, n'est-ce pas, de toutes les femmes candidates, du moins au café de presse que nous organisons. Alors, au regard de tous les échanges qu'on a eus, peut-être un message d'encouragement à toutes les femmes candidates comme vous.
Et donc, j'encourage les mamans à rappeler à leurs pasteurs qu'elles ont servi les églises. Voilà le moment où elles peuvent aussi être aussi les personnes à qui on doit remettre tout ce qu'elles ont eu, apporté comme fruit dans toutes les églises. Elles ont accompagné l'église et maintenant c'est le moment. Donc, chère maman, je vous encourage à aller rappeler cette réalité. Au-delà de tout cela, je voudrais aussi demander ou encourager la femme à être déterminée parce qu'elle a choisi. Et quand on choisit, on est prêt. Et je suis très sûre que la femme candidate est prête à affronter les réalités électorales et d'ici quelques heures, qu'elle n'ait pas peur parce qu'elle n'a pas de moyens. Parce qu'elle doit être rassurée que la population n'est pas dupe. Qu'elle trouve un discours adapté. Qu'elle trouve un discours à dire réellement parce que la femme, on reconnaît en elle qu'elle n'est pas cette femme politique démagogue. Non. À la femme, il y a toutes ses qualités. Elle porte avec elle beaucoup de qualités. Et en elle, nous reconnaissons qu'elle peut faire la politique autrement. Et donc, qu'elle dit bon avec des discours appropriés. Aux mamans, nous savons tout ce que nous pouvons dire aux mamans. Longtemps, elle a subi. Longtemps, elle a été cette femme-là qui n'attend qu'elle peut ne puisse être récupérée. Et donc, c'est le moment où elle doit être rassurée. Je l'encourage à être déterminée et affronter les milieux qu'elles ont toujours eu à affronter. Un autre milieu, ce sont nos marchés. Les mamans sont très nombreuses dans nos marchés. Et donc, que les femmes ne puissent pas se décourager. Ce sont ses propres milieux qu'elles doivent exploiter, elles doivent trouver des discours et parler avec les leurs. Un autre mot d'encouragement, c'est que je demande et j'exhorte les mamans à être confiantes. Qu'elles soient confiantes en elles, qu'elles soient déterminées et qu'elles se rassurent. Et c'est seulement là que nous pouvons prendre ce flambeau qui soit devant nous et que nous puissions réellement être ces femmes bien représentées. Parce que la femme doit reconnaître que si elle y va, et le discours qu'elle ne doit pas prendre, c'est que jamais elle ne peut construire un port. Elle ne peut jamais construire un stade. Elle ne peut jamais construire un marché. Mais elle doit y aller avec un discours. Elle doit reconnaître qu'est-ce qu'elle doit légiférer, qu'est-ce qu'elle doit dire comme députée. Et donc, je vous rappelle et je vous exhorte, je vous encourage à maintenant y aller avec tous les outils que nous avons eus pendant toutes les formations et tout ce que nous avons eu dans nos ateliers. Et que je vous dis sincèrement merci.
Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de ce café de presse. Nous rappelons que nous recevions quatre panélistes, le professeur Ngoïkim Pouloua, Madame Clotilde Moutita, qui représentait pratiquement toutes les femmes candidates, Jeff Mbia, professionnel de médias, et Fidèle Guy Rondé, communicologue. En fait, ce café de presse a été organisé par Vox Congo avec l'appui de Internews et la collaboration de Remac. Et donc, nous vous disons sincèrement merci et à la prochaine occasion. Voilà. Merci.